30. On s'est arrêté la semaine dernière au verset 16. Et ce soir, on va voir du verset 17 jusqu'au verset 40. On va pas le lire, mais on va le lire par petits paragraphes. Et ce soir, Paul il nous parle du contentement. Vous savez ce que c'est le contentement? Je regardais dans le dictionnaire, voilà ce qu'il dit. État d'une personne contente. Et c'est de ce sujet-là aujourd'hui, et d'ailleurs, le message, le centre du message de ce verset-là, il se trouve au verset 17. Et le verset 17, il dit que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu des dieux. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Paul ici, il donne un ordre. Et cet ordre-là, il le répète trois fois. Il le répète au verset 20, on va le lire, le verset 20, il dit « Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Hein? » Et l'autre fois, il est auprès au verset 24. Et il dit « Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. » Ici, c'est l'ordre du Seigneur. Hein? Paul, il nous ordonne et il le répète trois fois. Ça veut dire que c'est très important.
Le premier amour.
J'ai pas compris.
Le premier amour.
Ah oui, voilà, exactement. Mais ici, on est en train de parler du contentement. C'est contenter. Voilà pourquoi ces trois ordres que le Seigneur et que Paul il nous donne, que chacun, il reste dans l'état où il était, que chacun, il vive la vie quand le Seigneur il appelait. Il faut se contenter. Et c'est de cela que Paul... Et c'est très important de cultiver une attitude de satisfaction dans notre vie chrétienne. Et Paul, ici, il nous le montre dans trois domaines de notre vie, de la vie chrétienne. Le contentement dans le domaine de la vie. Premier contentement, c'est dans la situation culturelle. La situation culturelle. Lisons les versets 18 à 19. 18 à 19. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Voilà, le contentement dans la situation culturelle. C'est ce que Paul dit au verset 18. Quelqu'un a été appelé circoncis, qui demeure circoncis. Quelqu'un il a été appelé incirconcis, qui ne se fasse pas circoncire. Vous souvenez qu'à Corinthe, il y avait des différents clans. C'était Corinthe, c'est une ville dans laquelle il y avait beaucoup d'ethnicité. Hein? Il y avait des juifs, il y avait des gentils, et il y avait des chrétiens. Donc, voilà pourquoi Paul, il donne ce contentement, premièrement, dans la situation culturelle où il était. Les origines ethniques dans Corinthe, elles étaient très différentes. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y avait ces trois, on trouvait des païens, des juifs convertis au christianisme. Et la question, il s'est posé, il a dit, maintenant que je suis chrétien, maintenant que nous sommes chrétiens, que devons-nous faire? Puisqu'ils sont passés, ils étaient païens et ils sont devenus chrétiens. C'est toujours par rapport à la ville dans laquelle ils étaient, n'est-ce pas? Hein? Et donc, le christianisme est-il une religion? Et aussi, il disait, existe-t-il des rites qu'on ne doit pas observer? Parce que, encore une fois, la semaine prochaine, je crois que c'est la semaine prochaine, on va parler des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà pourquoi des gens qui s'étaient convertis se posaient la question et ils disaient, il y a des rites qu'il faut suivre ou pas. Et ça, c'est quelque chose de... Les païens qui devenaient chrétiens, ils se demandaient, est-ce que je dois me faire circoncire? Parce qu'ils ne l'étaient pas. Qui c'est qui est circoncis? Il n'y a que les juifs. Donc les païens, ils se disaient, est-ce que je vais me faire circoncire maintenant que je suis chrétien? Et les juifs, ils disaient, moi, je suis juif, je suis circoncis, est-ce que maintenant que j'ai accepté le Seigneur Jésus, je dois me faire un circoncis? Parce qu'il faut savoir que, à cette époque-là, ils le faisaient, les juifs. Parce que dans l'Empire romain, il fréquentait les juifs, il fréquentait les bains publics. Et vous savez, dans les bains publics, tout le monde était à poil. Et les juifs qui étaient circoncis, on les voyait. Et on se moquait d'eux. Et il y avait une opération chirurgicale, ils faisaient l'opération, dans laquelle ils redonnaient les prépuces. Vous savez que, hein, pour le... Hein, et ça, pourquoi est-ce qu'on le sait? Parce que dans le livre historique, apocryphe, qu'on appelle les Maccabées, un Maccabée, je vous lis ce qu'il dit, ce livre. Il dit, en ces jours-là, surgit en Israël une génération de vauriens qui séduisirent beaucoup de personnes en disant, allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent. Ils construisirent donc un gymnase à Jérusalem, selon les usages des nations, et se réfirent des prépuces et régnèrent l'alliance sainte pour s'associer aux nations. Quelle était l'alliance sainte? C'est celle qu'il y avait avec Abraham. Hein? Les Juifs, tu appartiens à la nation d'Israël et tu te faisais circoncis. Donc on voit dans Maccabée, il y a les païens qui disaient, maintenant que je suis chrétien, est-ce que je dois me faire circoncire? Et les Juifs qui se sont convertis ont dit, bon, je suis circoncis, mais est-ce que je dois me faire en circoncis, hein? Parce que ça existait, ces choses-là. Et Paul, il donne la réponse à ces gens-là, au verset 19. Il dit, la circoncision n'est rien. Et l'incirconcision n'est rien. Ce qui compte, c'est observer les commandements de Dieu. On en a déjà parlé, hein? La circoncision était très importante dans l'Ancien Testament. C'était le symbole d'appartenir à la nation d'Israël. Et les prophètes, ils pestaient contre des hommes dont le cœur, il était incirconcis. Il était incirconcis. Hein? Et Jérémie nous dit au chapitre 9, 26, « Toutes les nations sont incirconcises. » Et toute la maison d'Israël a les cœurs incirconcis. Donc, ils étaient circoncis, mais leur cœur, il était incirconcis. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient fait circoncis pour appartenir, comme appartenant à Israël, mais ils n'observaient pas les commandements de Dieu. Et Paul, il nous dit, la circoncision n'est rien. La circoncision n'est rien. C'est ce qui compte, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est ça qu'il leur dit. Hein? Et Étienne aussi, lorsqu'il a été lapidé, hein, dans Acte 7, 51, il s'écria, « Oh, mon courède, incirconcis des cœurs et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Il parlait à des Juifs, ils étaient circoncis, mais Étienne, il leur dit, « Oh, mon courède, au cœur incirconcis. » Et lorsque c'est marqué comme ça, c'est qu'ils n'observaient pas le commandement de Dieu. Ça ne sert à rien d'appartenir au peuple juif si on n'observe pas le commandement de Dieu. Et Paul nous le dit, qui c'est les juifs? Les juifs, c'est celui, pas celui qui est circoncis de la chair, qu'on lui coupe les prépuces comme pour appartenir au peuple d'Israël. Mais les vrais juifs, c'est celui qui a le cœur circoncis. Et cette circoncision-là, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui l'a compris. Et c'est ça que Paul dit. Devenir chrétien, ça ne veut pas dire de couper toute attache à sa propre culture. Non. Il faut continuer dans sa propre culture, mais on est rentré dans une sphère spirituelle. Et nous devons faire tout pour que nous puissions être en paix et être dans le contentement. Un musulman, par exemple, qui se tourne vers Christ, n'a pas à régner ses traditions culturelles. Dans la Bible, il ne dit pas ça, mais dans la Bible, il te dit d'observer les commandements. C'est comme ça qu'on est... Certes, il y a des choses qui changent, mais la foi dans laquelle ils sont rentrés, païens ou juifs, hein, ils ne changent pas. La foi, il reste, c'est celle de faire confiance à Dieu, de faire confiance à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul il leur dit, vous, est-ce que je dois me faire circoncire, est-ce que je dois me faire incirconcire? Toutes ces choses-là, ils ne sont à rien. C'est ce qui est important, c'est que vous observez les commandements de Dieu. Et ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. C'est ce qui compte pour Dieu, c'est l'obéissance. Obéissance. Notre obéissance, c'est ça que Dieu commande expressément. Hein, vous en souvenez avec Samuel. Il voulait faire les choses pour faire content le peuple, mais Dieu leur a dit, tu vas attendre que Samuel revienne. Et alors, les peuples commençaient à s'impatienter, et ils ont offert le sacrifice. Le roi Saül, lui-même, il a offert le sacrifice. Il n'avait pas le droit de le faire. Dieu, il a dit, tu attends que Samuel y rentre. Mais les choses, lorsque Dieu il donne un ordre, il arrive toujours à l'heure. Il venait de sacrifier l'animal et paf, Samuel arrive. Et c'est là que Saül lui a dit, mais j'ai fait ça pour contenter le peuple, parce qu'il commençait à s'impatienter. Mais qu'est-ce que je t'avais dit? De m'attendre.
Et c'est aussi lui qui s'impatientait.
C'est ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Des fois, obéir à quelque chose, ça nous paraît étrange, sinon, ou l'homme même. Mais Dieu, il a son temps. Voilà pourquoi il nous demande d'obéir. Le premier contentement, on l'a vu. Le deuxième, c'est dans la situation sociale. Lisons le verset 20 à 24. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profitez-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Voilà, c'est le contentement dans la situation sociale. Paul, il le dit. Il le dit, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé, c'est-à-dire lorsqu'il s'est converti. Et il dit, ne t'inquiète pas si tu es esclave. Est-ce que Paul, il est pour l'esclavage? Non, parce que plus loin, il dit, si tu as l'occasion, hein, sois libre. Mais lorsque tu rentres, tu acceptes le Seigneur, ne t'occupe pas si tu es esclave ou libre. C'est ça que le Seigneur nous dit. Et pourquoi? Parce que Christ, il est venu chercher et sauver, comme il nous est dit dans Luc 19, 10, venu chercher ceux qui étaient perdus. Et soit esclave, soit libre, soit... On est tous pécheurs, on est tous perdus. Et c'est Jésus-Christ qui est venu et nous a sauvés. Voilà pourquoi Paul le dit, et tu es esclave, ne t'en inquiète pas, ne t'inquiète pas. Le Fils de Dieu n'est pas venu, le Fils de Dieu Jésus-Christ n'est pas venu, il ne nous a pas sauvés pour nous donner un monde meilleur. Mais il est venu pour nous délivrer, pour nous donner la liberté chrétienne de pouvoir faire ce que Dieu il nous commande. Et c'est une liberté, hein, de nous pardonner, de pratiquer l'amour, comme on a chanté tout à l'heure, Dieu d'amour. Hein, quand je pense qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Et c'est ça. Oh, Dieu ne regarde pas à quelle caste on appartient. Tu peux être pauvre, riche, je ne sais pas moi. Jésus, il est venu pour toi. Il est venu pour te sauver et pour te libérer. Voilà pourquoi il dit, Jésus, c'est là, il l'a dit lorsqu'il était devant Pilate, vous vous en souvenez, dans Jean 18. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Voilà pourquoi on n'est pas d'ici. Quel est notre... Les chrétiens ne sont ici-bas. Les chrétiens, ils sont ici que des voyageurs. Des voyageurs. Des voyageurs. Hein? Notre billet, c'est la durée de notre vie. C'est ça. On est là que pour une durée. Et Dieu, il nous a donné à chacun une durée. Hein? On a vu des exemples, même lorsqu'il y a de grandes tempêtes et tout ça, et il y a des chrétiens qui sont restés vivants. Pourquoi ils sont restés vivants? Parce que ce n'est pas le moment de mourir. Tout est dirigé par Dieu. On a un temps pour vivre la vie que le Seigneur nous donne. Et il y a un temps pour mourir. Hein? Il nous l'a dit, Salomon. Il y a un temps pour tout. Et pour chacun de nous, nous devons meurtre. Et notre rôle en tant que chrétien, c'est quoi? On peut être esclave, mais notre rôle en tant que chrétien, c'est d'être ambassadeur de Christ. Et vous savez, les ambassadeurs, ils ont un passeport spécial. Un passeport spécial. Donc, si nous sommes des ambassadeurs, nous avons un message à porter. Voilà pourquoi il dit le contentement dans la situation dans laquelle nous étions, nous sommes. Et Paul, il nous le dit, hein, et il dit, c'est Christ qui donne la valeur à la dignité de l'homme. Ce n'est pas que tu es esclave, que tu es libre, que tu es blanc, que tu es noir. C'est Christ qui donne la dimension pour chacun de nous. Voilà pourquoi on doit nous regarder les uns les autres dans l'amour de Jésus-Christ. Hein? Je ne vois pas la couleur ou quelqu'un riche, pauvre. Non, je vois Jésus-Christ. Et c'est ça la liberté que le Seigneur nous donne. Mais, encore une fois, il ne faut pas penser que Paul, il est pour l'esclavage, parce qu'il nous le dit au verset 21. Si tu peux devenir libre, profitez-en plutôt. Profitez-en. Mais, le réaliser à être chrétien, c'est encore plus. Voilà pourquoi il dit, il faut te contenter. Tu as été appelé esclave, tu y restes. Pourquoi? Parce que tu es esclave par rapport au monde, mais tu es libre par rapport à Jésus-Christ. Et c'est ça que Paul, il veut nous dire. L'évangile, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit pour les esclaves? Il dit de se soumettre à leur patron. De se soumettre à leur patron. Et il dit aussi au patron, il leur dit d'être juste. Et vous savez, à cette époque-là, ils étaient payés tous les jours, à la fin de la journée. Tu faisais la journée et tu étais payé. Bibliquement, c'est ça. Tu travailles et les patrons, ils doivent te payer. Hein? Il y a une différence aujourd'hui. On est payé au mois aujourd'hui. Hein? Mais selon ce que Dieu dit, les ouvriers, ils étaient payés tous les jours. Parce que tous les jours, on a des besoins. Dans la situation actuelle, il y a des fois que, arrivé au vin, paf, il n'y a plus de... Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il faut attendre. Mais Dieu, il dit au patron, soyez juste. Vous payez les ouvriers à la fin de la journée. Comme ça, ils peuvent avoir les moyens pour se souvenir eux-mêmes. Voilà, c'est ce que Paul dit. Et c'est là, la satisfaction ne vient pas de ce monde, mais la satisfaction vient de Dieu. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il va pourvoir, demander et il vous donnera. Voilà pourquoi il nous dit qu'il faut être satisfait dans la situation dans laquelle nous sommes. Ici, il parle des esclaves parce que c'était les gens les plus dédaignés, quoi. Mais c'est aussi, il peut parler de la situation dans laquelle on est. Peut-être qu'on a un tout petit travail, que les gens ils regardent d'un mauvais œil. Voilà, tu as été appelé comme ça, reste comme ça. Ne t'occupe pas de ce que les gens ils peuvent te dire tout autour de toi. C'est ce qui compte, c'est ce que tu es. Tu as été délivré par Dieu, tu as été libéré par le Fils, et c'est là que c'est la vraie libération. C'est ça que Paul nous dit. Et encore, le troisième contentement, on l'a dans le verset 25 à 40. Et ici, Paul, il dit, il revient un peu au célibat. C'est-à-dire, c'est le contentement dans le célibat. Contentement dans le célibat. On a déjà évoqué la semaine dernière, hein? On a déjà évoqué la semaine dernière, hein? Paul lui donne des conseils, on l'a vu la semaine dernière, aux divorcés convertis, aux célibataires jamais mariés, aux couples chrétiens et aux couples mixtes, on l'a vu la semaine dernière. Et aussi, on a vu un peu les divorces et les remariages. Hein. Et Paul aborde pour la dernière fois hein, la question du célibat. Hein. C'est du verset 25 à 40. Mais lisons-le. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Hein, on l'a vu déjà la semaine dernière. Hein. Ce n'est pas que parce que le Seigneur il ne l'a pas dit qu'on ne doit pas l'observer. Mais Paul, en tant qu'apôtre, en tant qu'appelé par Jésus-Christ, en tant que rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il dit quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui lui dit. On n'a pas besoin qu'il soit dit par le Seigneur. D'ailleurs, des fois, il dit, c'est moi qui vous l'ai dit, ce n'est pas le Seigneur. Tandis que d'autres fois, il dit, c'est le Seigneur qui vous le dit. Hein? Donc, lorsque Paul, il parle avec autorité, parce qu'il est apôtre. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voilà pourquoi Paul il nous dit ça. Il veut épargner toutes ces choses-là, les tribulations, dans la chair. Dans la chair. Hein. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Attention ici, le mot à comprendre, hein, c'est pour ceux qui réjouissent, ne vous réjouissez pas, parce qu'il dit le temps est court, c'est à propos de ça, hein. Il ne dit pas, si tu as une femme, ne t'occupe plus de la femme. Mais ici, il dit, dans la pensée de Paul, ils attendaient le Seigneur d'un moment à l'autre. Hein? Le Seigneur, avant de s'en aller, la toute dernière phrase d'Apocalypse, nous a dit, je viens bientôt. Et l'Église lui a répondu, Maranatha, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Paul, en disant, le temps est court, il attendait, il a dit donc, il dit, si tu es marié, ne pense pas à ta femme. Pense à ce retour du Seigneur, parce qu'il va revenir bientôt. Et tout, voilà pourquoi je mets l'emphase sur ces mots-là. Le temps est court. Verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui n'est pas marié. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. afin d'être saint des corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il le fasse, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point. Mais celui qui a pris une femme, une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Toujours par rapport au temps court, hein, lorsqu'il dit « fait mieux hein. ». Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle l'est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Voilà pourquoi toutes ces choses-là, c'est le contentement dans le mariage, voilà pour, dans le célibat. Hein. Ceux qui sont divorcés, bien sûr, comme nous le dit, hein, c'est-à-dire selon les directives bibliques, ils peuvent se remarier. Quelles sont les perspectives bibliques? C'est l'adultère, la fornication. Hein. Si l'un ou l'autre, ils ont commis l'adultère, la fornication, l'immoralité, si divorce il y a, elle peut se marier, il peut se remarier. Ça, c'est le Seigneur aussi qui nous l'a dit. Mais on a vu la semaine dernière que la pensée de Dieu, c'est le pardon. Si repentance il y a le pardon. Mais si vraiment l'une ou l'autre, il ne veut pas faire ça, il y a le divorce. Mais c'est celui qui a commis l'adultère. Et la femme qui obtient le divorce, elle peut se remarier. C'est exactement ce qu'il dit. Ceux qui sont célibataires, c'est-à-dire jamais mariés, doivent-ils rester ainsi ou doivent se marier? Voilà la question que Paul il pose. On en a un peu parlé la semaine dernière. Hein? Et il donne des conseils, Paul, fraternels, parce qu'il est chrétien, mais aussi paternels. C'est des conseils qu'il donne, pas seulement à ceux de Corinthe, mais c'est des choses que nous, on a besoin. Et au verset 25, il dit, « Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur. Pourquoi ? » Parce qu'ils sont vierges, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mariés. Donc, il le dit tout à l'heure, il dit, s'ils restent comme ça, s'ils ne se marient pas, c'est bien. Mais si, pour ne pas tomber dans l'incontinence, bah, tu te maries. Hein? Ces considérations, Paul lui donne des considérations, hein, hein? Et surtout écrite pour les célibataires. Mais on en a besoin aussi. Hein? On en a besoin. Hein? Mais les mêmes questions, préoccupations s'adressent aussi à ceux qui sont mariés, à nous. Parce que c'est des enseignements de Paul. Et tout ce qui vient de Paul, comme il a dit au verset 40, hein, je crois moi aussi d'avoir l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on parle avec l'Esprit de Dieu, c'est parole de Dieu. Hein? Voilà. Donc, Paul, au verset 26 et 28, Paul, il considère d'abord les difficultés du couple. Hein? Et il dit, à cause des calamités présentes, il est bon à un homme d'être ainsi. Les calamités, c'est les persécutions qu'il y avait, hein? Toutes les choses qui peuvent arriver, et il dit, vous êtes mariés, hein, à cause des calamités, il y a des difficultés dans le couple. Pourquoi? Au sein du couple, un homme et une femme sont différents. Ils ont des pensées différentes, mais ils doivent les unir dans le Seigneur. Quelqu'un qui est marié et il y a des calamités autour de nous, il y a des difficultés, il y a des persécutions, qu'est-ce que c'est qu'il fait celui qui est marié? Il pense à sa famille. Il pense à ses enfants, il pense à lui-même. et l'ambassadeur, bien sûr, mais beaucoup moins. Voilà pourquoi il dit, il y a des difficultés au sein du couple, et ces difficultés, il faut les vivre. Ils sont dans le couple. Et aussi, il y a des difficultés liées aux circonstances dans la vie. Dans la vie, il y a des combats. On a une femme, on a un homme, et on doit avancer ensemble. Hein? Comme on dit le proverbe, à deux vaut mieux qu'un. N'est-ce pas? Si quelqu'un tombe, il y a l'autre pour le relever. Si combat il y a, c'est mieux combattre à deux. Voilà pourquoi Paul, il montre les difficultés. Mais il nous dit aussi qu'on a l'aide de Dieu qui peut être là pour chacun de nous. Mais encore une fois, c'est toujours dans la pensée, le temps est court. Hein? C'est ça la pensée de Paul. Si on sait, par exemple, si on savait que le Seigneur Jésus revient la semaine prochaine, qu'est-ce que c'est qu'on ferait? On s'occuperait qu'il y a des choses de lui. Hein? On travaillerait qu'il y a pour lui. Hein? Voilà pourquoi le Seigneur, à un certain moment, il a dit les disciples, ils ont dit, mais quand ces choses arriveront-elles? Jésus, il a dit, personne ne le sait, même pas le Fils. Mais attention, là, il ne le savait pas par rapport à l'humanité de Jésus-Christ, les fils de l'homme. Mais en tant que Dieu, il le savait. Mais comme il est descendu ici-bas, dans une situation de soumission, hein, le fils qui obéit au Père, voilà, il dit, il n'y a que le Père qui le sait. Donc, ne cherchez. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'il ne nous a pas dit quand il reviendra. D'ailleurs, dans Pierre, il y a un verset qui nous dit, les païens, ils l'ont dit, ça fait 2000 ans, ça fait depuis longtemps que vous nous prêchez que le Seigneur revient, et voilà, ils sont passés tant d'années, des centaines d'années, et encore, il n'est pas venu. Est-ce que nous devons te croire ou pas? Pourquoi ce long temps? Et Paul et Pierre, ils leur dit, c'est parce que Dieu il veut que vous soyez sauvés. C'est à cause de la repentance. Mais lorsque le temps il sera venu, alors le Seigneur il va revenir. Il nous est dit toujours dans l'Épître aux Romains que lorsque le nombre de païens ils seront rentrés dans l'Église, alors il viendra le Seigneur Jésus pour prendre son Église. Hein? Car encore une fois, tout dépend du nombre. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit, c'est un encouragement à évangéliser. Si nous, plus nous évangélisons, plus nous rapprochons ce nombre que personne ne connaît. Dieu seul le connaît. Voilà pourquoi la Bible n'arrête pas de nous dire « Allez chercher les élus ». Car Dieu, il a élu des gens. Et ça, il l'a fait au commencement de toutes choses. C'est à ce moment-là que Dieu, dans sa toute omniscience, il a vu les moments où chacun de nous, si nous sommes chrétiens, il a vu les moments où nous avons accepté le Seigneur Jésus. Il nous a dit dans l'Épître, dans Philippiens, il nous a dit cela, qu'au commencement de toutes choses, Dieu, il nous a élus et il nous a prédestinés à être semblables à son Fils Jésus-Christ. Alors, en tant que chrétien, vous vous rendez compte qu'un jour, nous serons semblables à Jésus-Christ? C'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Paul, pour éviter toute ambiguïté, il précise que cet état de liberté, c'est-à-dire de célibat, hein, il est même enviable, mais il ne permet pas à un homme de se libérer de sa femme. Il dit, tu es marié, tu restes marié, c'est pas parce que le Seigneur Jésus vient que tu dois abandonner ta femme, tes enfants et tout le reste. Non, tu es marié et tu restes avec elle ou avec lui, tu marches avec elle ou avec lui et vous allez tous les deux à la rencontre du Seigneur. Voilà pourquoi Paul, il conseille les célibats. Pourquoi il conseille les célibats? Parce qu'un célibataire, il n'a pas de choses à penser. S'il est chrétien, il peut penser qu'au Seigneur. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, un célibataire, si se laisse diriger par la chair, il pense aussi à se chercher une femme. hein, une jolie fille, hein, pour qu'elle puisse sortir avec. Mais un vrai chrétien qui est appelé par Dieu à célibataire, voilà pourquoi on est dans les contentements. Tu es appelé célibataire, en tant que célibataire, ne pense pas à ces choses-là. Mais toujours par rapport au temps qu'il est proche. Hein. Le temps est court. Hein. Le temps est court. Au moment où Paul il écrivait, c'est ça. Hein. Et il dit, dans le cas, un célibataire, s'il n'arrive pas à gérer le désir de la chair, hein, alors Paul il nous le dit au verset 38, dans ce cas, tu te maries. Et tu ne pêches pas. Parce que si on fréquente une fille, si on couche avec une fille, quand on n'est pas marié, c'est péché. Et dites ça aujourd'hui au monde. Ils vont rionner. Hein? Au contraire, aujourd'hui, le monde te dit, mais c'est bien que tu essaies. Il faut essayer. Si ça te plaît, tu vas. Si ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Tu restes un certain temps, tu envoies un autre, donc tu t'en vas. Non, Dieu, il te dit que si tu couches avec une fille qui est célibataire, qui n'est pas mariée, c'est péché. C'est péché. C'est ce que Dieu dit. Si tu ne veux pas tomber dans les péchés, Paul, il te dit, marie-toi. Si tu ne résistes pas, marie-toi. Si tu te maries, pas de problème. Pas de problème. Hein? C'est ça. Hein? Et il y en a des célibataires qui vivent cela douloureusement. Hein? Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Ils s'imaginent peut-être que les mariages, c'est beaucoup plus vivant, meilleur. Mais au contraire, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Parce que tu ne penses pas à toi, mais tu penses aux autres, de ta famille, hein? Ta femme, tes enfants, toi-même, la maison, hein? L'avenir et tout ça, le travail et tout. Tandis qu'un célibataire, si le chrétien, il ne pense qu'au Seigneur. Et c'est ça que Paul lui dit. Hein? Hein? Et Paul il leur dit des choses qui sont bien, d'ailleurs dans Proverbe 21-19, vous connaissez ce qu'il dit. Il dit, mieux vaut habiter dans un pays désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. Dans un désert. Tranquille. Que vivre avec une femme, le contraire, c'est pareil. Hein? On va dire qu'il n'y a que la femme qui sont... Hein? Mais les deux. Hein? Voilà pourquoi c'est... Le mariage, vous savez, n'est pas une mince affaire. Hein.
Ah non.
Et la chose qu'il y a avec le mariage, c'est qu'une fois qu'on est marié, on est lié pour la vie. On est lié pour
mutuellement.
La vie.
Hein? Mutuellement.
Oui. Sauf, hein, d'ailleurs, le Seigneur, il l'a dit, parce qu'ils lui ont posé, vous vous souvenez, la semaine dernière, hein, le pharisien, ils lui ont posé la question. Hein? Est-ce que, hein, mais à cette époque-là, on a vu qu'il y avait deux écoles des rabbins qui disaient, un rabbin qui disait, bon, tu peux chasser ta femme pour n'importe quoi, voilà. Et l'autre qui disait, non, le mariage, voilà pourquoi les pharisiens, ils s'est marqué, ils ont dit, pour le mettre à l'épreuve, comme pour lui dire, et toi, de quelle école tu es? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a ramenés à la parole. Ne savez-vous pas qu'au commencement, c'est Dieu qui a uni l'homme et la femme.
Alors, souvent on dit, l'amour va avec le mariage de la vie.
C'est ça. Dans la pensée de Dieu, il y a homme, femme et vie. Il n'y a pas homme ou femme. Ça n'existe pas. Dans la pensée de Dieu, c'est homme, femme, à vie. C'est ça la pensée de Dieu. Il nous a dit que Dieu aime les divorces. Il aime les divorces. Mais bien sûr, on l'a vu la semaine dernière, qu'il peut y avoir, dans un mariage, il peut y avoir des difficultés. Et il peut y avoir des divorces. On l'a vu la semaine dernière. Mais lorsque on divorce, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander pardon à Dieu, et Dieu, il nous pardonne. Dieu, il nous pardonne. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons nous remarier. C'est les péchés qui nous pardonnent. Mais il y a, vous savez qu'il y a une conséquence à tout péché. Lorsqu'on pêche, il y a la conséquence qui te tombe dessus. Mais Dieu te pardonne. Quelqu'un qui tue quelqu'un, hein, il rentre en prison, il devient chrétien, il demande pardon à Dieu. Dieu le pardonne. Mais où est-ce qu'il va? En prison. C'est la conséquence du péché. Voilà pourquoi c'est très important cela. Mais on est unis à la vie. Sauf, il faut, pour se remarier, il faut que l'un ou l'autre il soit mort. Car à un moment, on casse l'alliance, la loi. Ça n'existe pas. On est libre, parce que la loi, il nous dit, Dieu, il nous dit, l'homme et la femme, il les a unis. Ils seront unis pour la vie. Mais si l'un et l'autre meurent, alors ils peuvent se remarier. Mais on a vu la semaine dernière, la pensée de Dieu, la première pensée de Dieu, ce n'est pas le divorce, mais c'est la séparation. D'ailleurs, Paul, on l'a vu la semaine dernière, hein, passé un certain temps, hein, il peut retourner chez sa femme ou chez son homme, hein, ou sinon la femme il ne veut pas pardonner, et alors il y a les divorces. Mais, encore une fois, les divorces, c'est pardonnable, mais il y a la conséquence du péché. Voilà pourquoi les mariages n'est pas... Je m'en souviens d'une femme qui me disait sans crainte qu'elle avait peur d'enfanter dans ce monde. Elle avait peur d'enfanter dans ce monde. On vit dans un monde étrange. Pourtant, la femme, elle est faite pour enfanter. Elle est faite pour enfanter. Hein? À cette époque-là, il nous est dit dans Genèse 3:15, hein, hein, que c'est la postérité de la femme. Et dans le temps des Juifs, hein, la femme, quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant, il disait qu'il était dans la malédiction. Pourquoi? Parce que la femme, en donnant naissance, peut-être qu'il aurait donné naissance au Messie. Hein? Voilà pourquoi c'est... Voilà pourquoi, au verset 29 et 31, Paul nous dit, pas seulement considérer les difficultés du couple, mais considérer le peu de temps qui reste. Le peu de temps qui reste, 29 et 31. Il dit, voici ce que je dis, frère. C'est ce que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne pas se réjouissant, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude, encore par rapport au temps et par rapport au retour du Seigneur. Hein, il nous a dit, si le Seigneur est retour, on ne va rien emporter, hein. Parce que les choses qui sont ici-bas, ils vont tous se dissoudre. Ils vont passer. Les richesses qu'on peut avoir ici, ils vont tous, on doit tous les abandonner. C'est ce qui compte, c'est la venue du Seigneur. Le temps, la durée de la vie est courte. Elle est courte. Voilà pourquoi il nous est dit au verset 29, il dit, voici ce que je dis, frère, le temps est court, le temps est court, la vie est courte. Vous vous souvenez, Jacques, il nous parle de cette vie, qu'elle est courte. Il dit, la vie c'est une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. Pierre, l'apôtre, il dit, toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Notre vie est courte. À certains moments, il vivait des centaines d'années. Mais Dieu, il a dit à Moïse, il a dit, bon, maintenant, le temps de l'homme sera de 80 à 90 ans. D'ailleurs, c'est rare ceux qui vivent et plus longtemps, n'est-ce pas? Mais voilà, pour nous dire qu'on est ici pour accomplir quelque chose et nous devons tenir compte de cette brièveté de notre vie. Et pas dire oh, « je suis encore jeune ». Non, on peut mourir à n'importe quel moment. Voilà pourquoi nous devons avoir constamment cette pensée de se dire « oui, le Seigneur, il va revenir à n'importe quel moment. Je peux être jeune, je peux être vieux, je peux être malade, je peux être sain. » Mais c'est temps, il faut que nous sachions qu'il est court. Et nous devons en prendre conscience de cela. Et Paul, il parle aussi des vierges. Et il y a des pères qui ils donnaient les vierges en mariage. Et il y a des pères qui ne donnaient pas les vierges en mariage et ils les gardaient vierges, quoi. Ils ne les donnaient pas en mariage. Et Paul, il le dit, c'est pareil, dire. Le père qui change d'avis pour le mariage, qu'il avait décidé de ne pas la donner et ensuite la donne, il fait bien. Celui qui fait le contraire, il fait bien aussi. Mais dit, ce qui retient, c'est ce que Paul veut nous dire ici, c'est d'écouter les conseils des parents. C'est-à-dire, pour le mariage, pour les fiançailles, écouter les conseils des parents. Pas faire comme il y a des parents qui obligent la fille, mais voilà, leur dire, écouter les conseils des parents. Parce que les parents, ils désirent quoi? Les parents, ils désirent les meilleurs pour leurs enfants. C'est ça que Paul le dit. Le père, il change d'avis. Il ne veut plus que la jeune fille reste vierge. Oh, sinon, qu'elle se marie. Et il change d'avis. Et il dit, c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est qu'il ne pêche pas. Qu'il ne pêche. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est les conseils des parents. Et ensuite, au verset 39 et 40, les deux derniers versets, il nous parle de la durée du mariage. Hein? Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Voilà ce qu'il dit, Paul. On ne peut prendre une femme ou un mari que pour le jeter la semaine prochaine. C'est ça la pensée de Dieu. On prend une femme et un mari, c'est pour toujours. Hein? Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Verset 39. Mais si elle meurt, elle peut se remarier. La durée du mariage, c'est ce qui l'effraie. Et vous savez, vous en souvenez, les apôtres, c'est le Seigneur, lorsqu'il parlait de mariage, il a dit, « Ah, si le mariage est comme ça, c'est mieux rester sans se marier. » Et le Seigneur, il leur a dit, Matthieu 19, hein, il dit, « Si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Parce que le Seigneur, il leur a dit, ben, « Si tu te maries, c'est pour toujours. Hein. » Et alors les apôtres, parce que c'était, encore une fois, dans un pays juif, hein, avec ces deux pensées de l'école rabbinique qu'il y avait. Voilà pourquoi il dit, ah, si la pensée c'est comme ça, c'est mieux ne pas marier. Mais le Seigneur, il le dit, mais voilà, à chacun est donné de vivre dans la situation dans laquelle tu es. Le contentement, encore une fois, il faut se laisser être content dans la situation dans laquelle on est. Où on est marié, où on est non marié, où on est de vierge, où on est marié avec une femme, l'un ou l'autre chrétien ou pas. On l'a vu la semaine dernière. Hein. Mais la pensée, c'est que nous devons rester unis. C'est la pensée des pauvres. Et pour terminer, je vais vous lire une petite histoire que j'ai lue, moi aussi je vais vous la lire. Georges Truet, un pasteur bien connu, a été invité à dîner dans une maison d'un homme très riche au Texas. On la connaît déjà, mais bon. Après le repas, son hôte l'a conduit à un lieu d'où il pouvait avoir une bonne vue de la région environnante. En indiquant du doigt les puits de pétrole qui pointaient le paysage, il s'est vanté ainsi. Il a 25 ans, je n'avais rien. Maintenant, aussi loin que vous pouvez voir, tout est à moi. Regardant de la direction opposée, vers ces champs de blé, s'étendant à perte de vue, il a dit, tout ça c'est à moi. En se tournant vers l'est, vers les énormes troupeaux de bovins, il a continué de se vanter ainsi. Ils sont tous à moi. Puis en regardant à l'ouest, vers les forêts magnifiques, il s'est exclamé, cela aussi est à moi. Il s'est arrêté. Attendant que M. Trouillet le complimente pour sa grande réussite. Cependant, Trouillet, plaçant une main sur l'épaule de l'homme et pointant son index vers le ciel de l'autre, dit simplement, « Combien possédez-vous dans cette direction-là » L'homme baissa la tête et confessa, « Je n'ai jamais pensé à cela. » Voilà le contentement. Hein? Le Seigneur nous montre dans quelle situation nous devons avoir ce contentement et se dire tout ce que nous vivons ici, sur cette terre, hein, nous le vivons pour le Seigneur, par le Seigneur et avec le Seigneur. Donc, je suis dans le contentement. Je ne cherche pas à me libérer de ce que je suis parce que le Seigneur, il est ma liberté et je vais continuer à vivre avec lui. Voilà, le contentement. Est-ce que nous sommes contents de la situation où nous sommes? C'est ça. C'est ça la conclusion de Paul. C'est à chacun de nous de réfléchir et se dire, il faut que je sois dans le contentement parce que Dieu, il me le commande. Et mon seul contentement que je peux avoir, c'est celui du Seigneur. Amen. Roland, tu veux terminer par la prière, s'il te plaît.